Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme annoncé la semaine dernière, ce soir nous allons entrer dans la matière de ce qu'est le Coran. Qu'est-ce qui est révélé dans le Coran ? Pour ceux qui ont le syllabus, vous constaterez que je pondère un peu différemment les accents, dans la mesure où ce soir nous allons aborder à la fois les croyances de foi et le culte prescrit qui prennent une place plus importante dans le syllabus, pour réserver toute une séance sur la question de l'agir moral et de la vie en société la semaine prochaine. Donc il y aura plus que dans le syllabus, parce que cela touche davantage sans doute à certaines questions que certains se posent aujourd'hui, je ne sais pas pour quelles raisons. Donc traditionnellement, le contenu de la révélation est reçu par les musulmans comme comportant quatre grands chapitres: les croyances de foi, le culte prescrit, la vie morale et la vie en société, les relations sociales. Aujourd'hui, nous abordons donc les croyances de foi et le culte prescrit en commençant par les croyances de foi. Les articles de ce à quoi il faut croire, nous les retrouvons au verset 135 de la sourate 4. Ô vous qui croyez, croyez en Dieu, en son envoyé, à l'écriture qu'il a fait descendre sur son envoyé et à l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, ses anges, ses écritures et ses envoyés, et au dernier jour, est dans un égarement infini. Nous avons là l'énumération des cinq articles de foi fondamentaux qui sont révélés dans le Coran et qui structurent la foi des musulmans. Nous allons parcourir maintenant, brièvement évidemment, dans le cadre du temps nous est imparti, ces cinq articles de foi, en commençant par le premier, Dieu. L'existence de Dieu n'est guère contestée du temps de Mohammed, d'où le peu de zèle a prouvé l'existence de Dieu. Cela n'est pas la question. Cependant, le Coran développe abondamment ce qu'il appelle les signes de Dieu, qui vont indirectement des signes vers l'existence de Dieu. On ne peut connaître de Dieu que ce qu'il révèle de lui-même, mais c'est par contre un devoir religieux d'apprendre à reconnaître ces signes. Le premier signe de Dieu qui tient une place importante dans le Coran, c'est la création elle-même. À la beauté de la création est un signe pour le croyant qui le conduit vers Dieu. L'expérience de la finitude en est un second, comme en négatif, car Dieu est le seul véritablement et éternellement existant. En faisant l'expérience de sa caducité, le croyant découvre ce qu'est le fait d'être véritablement et éternellement existant. Et puis un troisième signe important pour les musulmans de Dieu, c'est le Coran lui-même. Le Coran suffit à prouver l'existence de Dieu, ou plutôt à le révéler au cœur du croyant. Le verset, je le signalais déjà la fois dernière, se dit en arabe « ayat », ce qui veut dire « signe », car il s'agit là d'une prédication divine inimitable. L'existence de Dieu peut donc être connue par la raison à partir des principaux signes de l'univers et de la révélation. Donc la création, l'expérience de la caducité qui fait percevoir ce qu'est l'être existant en lui-même, et enfin le Coran lui-même et chacun de ses versets. Dieu se donne à connaître par ses signes, mais que peut-on dire de lui? Le trait fondamental et essentiel de la foi musulmane, c'est l'affirmation radicale de l'absolue unicité de Dieu. C'est là le thème central du Coran et qui se trouve au cœur de la vie de tout musulman. Le pire péché du point de vue de l'islam, c'est celui de shirk, c'est-à-dire d'associationnisme, le fait d'associer à Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu. Et c'est le point d'achoppement spirituel et théologique sans doute le plus difficile dans la rencontre entre chrétiens et musulmans. Les musulmans, même lorsqu'ils font un réel effort pour saisir le cœur de la foi chrétienne, garderont toujours le sentiment que d'une façon ou d'une autre, les chrétiens, à travers la doctrine de la Trinité, l'affirmation que Jésus est fils de Dieu, font du shirk, associent à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Dieu n'a ni associé, ni égal, ni rivaux. Dieu est uni et il est absolument transcendant. Son absolue unicité est fondamentalement liée dans le sentiment religieux musulman à un sens très aigu de l'absolue transcendance de Dieu. Il est absolument un et absolument transcendant. Très essentiel. Mais dans le même temps, il y a deux traits corrélatifs de Dieu qui paraîtront sans doute contradictoires et qui pourtant, dans l'expérience croyante, sont fondamentalement liés. Dieu est à la fois l'inaccessible et à la fois le tout proche. Dieu est l'inaccessible car l'unicité de Dieu est l'expression du mystère même de Dieu qui est irrévélable en sa vie intime. Lorsque Dieu se révèle, il révèle ce qui est utile pour le salut du croyant, pour le mettre sur le chemin de la vie selon le projet de Dieu, il ne révèle pas son mystère intime. Donc Dieu reste fondamentalement mystérieux, inaccessible, celui qui demeure caché. Il ne parle à l'homme que par révélation, derrière un voile, non pour révéler sa vie intime, mais bien son agir à l'égard du monde et de l'homme. Mais dans le même temps, il est tout proche. Il répond à la prière de l'homme. Il est plus près de lui que sa veine jugulaire, dit le verset 16 à sourate 50. Il connaît tout, il voit tout, il entend tout, mais il ne se communique pas à l'homme. Il n'y a aucune forme de communion de vie. Il peut être proche, mais en gardant fondamentalement cette transcendance, cette inaccessibilité aussi. Alors, le Coran énumère également une série d'autres attributs de Dieu que la piété musulmane a essayé de rassembler et en faisant des listes de 99 attributs. Pourquoi 99 ? Pour préserver le centième, pour préserver le mystère de Dieu. Parce qu'en donner 100, cela pourrait donner le sentiment de tout dire de Dieu. S'arrêter à 99, c'est s'arrêter devant le mystère, de dire que de Dieu, on ne pourra pas tout dire. Les grands attributs de Dieu que l'on retrouve dans ces listes et qui sont importants dans la révélation coranique, c'est tout d'abord celui de miséricordieux, El-Rahman, de la racine des entrailles, qui devient finalement un synonyme d'Allah, de Dieu lui-même. Dieu est aussi le pardonneur, le dispensateur de tout bien, le généreux, l'ami, le protecteur, le guide, la vérité, le réel, qui communique aux hommes sa lumière, le vivant, qui donne la vie en ce monde et dans l'autre. Ce sont tous ces attributs de Dieu extraits de la révélation elle-même qui conduiront à établir ces listes qui serviront alors dans la dévotion croyante, ces listes de 99 attributs divins. Deuxième article de foi, ce sont les prophètes. Dieu se révèle bien sûr par les signes comme la création, le Coran, l'expérience de caducité humaine, mais il se révèle aussi par des hommes qu'il a choisis pour parler en son nom, ce sont les envoyés et les prophètes. La terminologie coranique et musulmane distingue les deux termes, qui distinguent ceux qui ont reçu un message à transmettre, les rasouls, ceux qui ont une risala, qui ont un message à transmettre, et les nabis, qui sont des inspirés, qui parlent au nom de Dieu, mais qui n'ont pas à proprement un message divin à transmettre. La foi dans les messagers divins, ces prophètes, est le second article de foi de l'islam. Ces messagers, ces prophètes, sont pour une part également présents dans la tradition biblique, mais il y a également quelques autres prophètes qui viennent de traditions arabes pré-islamiques. Si on essaie d'établir une liste des prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, on en relève 26, dont le Coran rapporte certains récits prophétiques avec certains recoupements avec la tradition biblique canonique ou apocryphe d'ailleurs, ainsi qu'avec des traditions purement arabes. Les prophètes ou envoyés dans la foi musulmane sont de simples mortels. La théologie s'est posée la question de savoir s'ils étaient impeccables, s'ils ne péchaient pas. La question de l'impeccabilité des prophètes s'est posée pour les théologiens. Dans le Coran, les prophètes sont des hommes qui font des péchés. Mais la solution qui a été apportée par les théologiens est de parler d'une impeccabilité dans la fidélité à transmettre le message divin. C'est dans leur mission prophétique qu'ils jouissent d'une impeccabilité, mais non pas de façon générale dans l'entièreté de leur vie. Le prophète possède surtout la qualité de sidq, de véracité du message, mais toutefois, à partir du 9e siècle, en s'écartant à mon avis un petit peu de la rigueur de la révélation, on se mit à considérer les prophètes et surtout Mohammed comme impeccables. Tous les prophètes doivent prouver qu'ils parlent au nom de Dieu. Et cette preuve leur est donnée par Dieu lui-même sous forme de miracles prophétiques. On l'évoquait déjà la semaine dernière en disant que le Coran était le miracle prophétique qui authentifie la mission de Mohammed, tandis que la capacité thaumaturgique, sa capacité à faire des miracles, et le miracle prophétique qui qualifie, qui authentifie la mission prophétique, par exemple, de Jésus. Le prophète est choisi par Dieu au sein d'un peuple à qui il est envoyé. Et ils ont tous le même schéma de vie, comme je l'ai déjà mentionné, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord en but à l'hostilité du peuple, mais que l'assistance divine leur permet de surmonter cette hostilité. Ils parlent tous la langue du peuple auquel ils sont envoyés, et c'est ainsi que d'un point de vue musulman, Jésus, par exemple, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Seul Mohammed, le sceau des prophètes, fait exception et reçoit une mission à caractère universel. Ce qui est important à bien saisir, c'est que l'ensemble des prophètes forme une seule lignée, issue d'Abraham. Et ils ont tous reçu la même mission et ils confirment chacun leur devancier. Il faut donc croire à tous les prophètes, pas seulement à Mohammed, et ainsi reconstituer l'unité de tous les hommes dans la fraternité de la même foi. Car le message prophétique est constant. Tous les prophètes ne font finalement qu'adresser un seul et unique message à l'humanité. C'est à savoir qu'il ne faut adorer que Dieu, l'unique, et avertir les infidèles du châtiment qui les attend, tout en annonçant aux croyants la bonne nouvelle du paradis. C'est là vraiment le cœur du message transmis par l'ensemble des prophètes dans la perspective musulmane. Quatre figures prophétiques sont plus développées dans le Coran. Ce sont celles d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Arrêtons-nous peut-être un instant à celle d'Abraham qui est présentée, Ibrahim, comme l'ami de Dieu, Khalil Allah, qui est à la fois le héros du monothéisme qui brise les idoles de son peuple, le fondateur du culte de la Kaaba à la Mecque, nous y reviendrons tout à l'heure, le modèle du muslim, c'est-à-dire de celui qui se soumet tout entièrement à la volonté de Dieu, allant même jusqu'à être prêt à sacrifier son fils Ismaïl. Il est antérieur au judaïsme et au christianisme. Il n'est ni juif ni chrétien, mais il a annoncé la venue de Mohammed en priant Dieu pour qu'il envoie un prophète aux Arabes. Alors ça peut nous faire sourire, bien sûr, mais je vous inviterai quand même à relire, je trouve que c'est toujours très impressionnant, les textes de la Genèse relatifs aux bénédictions sur Ismaïl. Donc, ils sont très interpellants. Donc, Dieu, les prophètes, les Écritures. Le sommet des interventions divines en faveur de l'humanité sont la révélation de livres. Et c'est par les prophètes que Dieu fait descendre une écriture à communiquer au peuple auquel le prophète est envoyé. Comme je le disais la semaine dernière, il y a un texte préexistant, une écriture mère, Umm al-Kitab, qui est conservée sur la table bien gardée. Et cette écriture primordiale est révélée, descendue et dictée à certains grands prophètes, sans que ceux-ci ne jouent aucun rôle dans l'opération. Donc dans la perspective musulmane, le prophète est vraiment juste un canal de transmission le plus passif possible. Il ne joue aucun rôle dans la transmission de l'écriture qui lui est donnée. L'écriture donnée à Moïse s'appelle la Torah et recouvre le Pentateuque. L'écriture donnée à David s'appelle les psaumes. L'écriture donnée à Jésus s'appelle l'Évangile au singulier, à l'exclusion des autres écrits du Nouveau Testament qui, eux, sont signés par des auteurs humains. L'écriture donnée à Mohammed s'appelle le Coran. Et le Coran contient tout. Il n'est donc pas nécessaire de lire les autres écritures puisqu'elles sont toutes la révélation successive de la même écriture éternelle. Le Coran demande aux musulmans de croire à toutes les écritures, mais le seul suffisant est le Coran qui récapitule tout. Et à Médine, la question des divergences entre les écritures juives et chrétiennes avec le Coran s'est évidemment très rapidement posée, et comme je l'ai déjà signalé dans des cours précédents, elle a été solutionnée par cette notion de tahrif, qui parfois a été traduit comme falsification, mais qui vise plutôt un défaut dans la transmission, des erreurs de copiste, qui expliquent les différences qu'il y a entre les écritures juives, chrétiennes et le Coran. Dieu, les prophètes, les écritures, et puis les anges. Il s'agit ici de l'ensemble de ces êtres qui ne sont ni Dieu, ni homme. Il y a dans la Révélation trois catégories de ces êtres, à savoir les anges, les démons et les djnoun, qui est le pluriel de djinn. Parfois certains disent en français les djinns, mais c'est un pluriel interne, donc le pluriel c'est les djnoun, qui jouent un rôle important dans la piété populaire musulmane et parfois et avec une dominante sans doute dans le monde féminin. Les anges, tout d'abord, ce sont des adorateurs de Dieu. Et ils sont surtout les messagers que Dieu envoie aux hommes pour qu'ils apportent ses ordres. Et en particulier, ils sont chargés de la révélation. Comme Gabriel, qui transmet le Coran à Mohammed. Ils ont un autre rôle important, c'est celui d'enregistrer au cours de la vie humaine les actes bons et les actes mauvais de chacun d'entre nous, chacun d'entre nous ayant à sa droite et à sa gauche un ange chargé de cette fonction. Ils interviennent aussi dans la guerre en assistant les croyants. Leur nature n'est pas précisée dans le Coran, qui les décrit comme des intermédiaires entre Dieu et l'homme, descendant et remontant de la terre au ciel. Les démons, une appellation générique aussi, parce qu'il faut distinguer d'une part Iblis ou le diable, qui est celui qui refuse de se prosterner devant l'homme par orgueil, parce que lui, créé de feu, s'estime supérieur à Adam, et Dieu, de ce fait, le chasse du paradis, et il se déclare ennemi des hommes, les épiant, les harcelant et les égarant. Cependant, Dieu lui refuse tout pouvoir sur ses serviteurs fidèles et lui promet le feu éternel. Il semblerait que Iblis, après son expulsion du paradis, prenne le nom de Shaitan, qui en hébreu, comme en arabe d'ailleurs, a le sens de rebelle ou d'ennemi, celui qui s'oppose à quelqu'un qui divise. Iblis et Shaitan, le grand Shaitan en tout cas, visent sans doute le même démon. Mais on trouve aussi dans le Coran le mot « shaitan » au pluriel, « shayatin », qui sont parfois des génies non pernicieux et qui pourraient renvoyer à une origine pré-islamique d'Arabie et qui sont le plus souvent la descendance du grand Shaitan Iblis, pernicieux et tentateur. Iblis, Shaitan, trompe les hommes en leur faisant voir bien ce qui est mal. Et ceux qui l'écoutent deviennent ses suppôts. Et on se libère de lui en se réfugiant en Dieu et en le lapidant, comme dans le rite du pèlerinage. Les anges, les démons et les djnouns, le Coran en parle plusieurs fois. Il s'agit donc d'un élément de révélation. Ils sont créés par Dieu avant les hommes. Ils sont faits de flamme claire, tantôt proche de la nature humaine, tantôt proche des démons. Et comme les démons, ils cherchent à percer les secrets du ciel et à tenter les hommes. En tout cas, ce sont des créatures terrestres, créées comme les hommes pour adorer Dieu. Ils ont reçu la prédication coranique. Certains se convertiront à l'islam et les autres, infidèles, deviennent diaboliques et tentateurs des hommes. Dieu, les prophètes, les Écritures, les anges, et puis cinquième article de foi, la vie future et le dernier jour. Toute une partie du message coranique consiste à faire connaître à l'homme l'existence d'un Dieu unique, créateur et rémunérateur, et à rappeler aux croyants les lois qu'ils devraient observer pour connaître le paradis dans la vie future. C'est ainsi que le Coran traite de la fin du monde, de la résurrection générale, du jugement, suivi de la rétribution. Le Coran soulignera avec force et développera tout ce que l'on appelle les signes de l'heure, qui précèdent donc le moment de la fin du monde. Parmi ces signes de l'heure, il y a entre autres le retour de Jésus, puisqu'il n'est pas encore mort, qu'il a été élevé auprès de Dieu, il lui faut venir terminer sa vie terrestre en bon musulman et mourir avant la fin du monde. Donc le thème des signes de l'heure est fortement développé. Les descriptions du paradis et de l'enfer le sont également dans des termes très imagés et très réalistes. Mais ce qu'il me paraît important à souligner dans une perspective de rencontre aussi entre chrétiens et musulmans, c'est de bien percevoir la différence de perception dont il s'agit par rapport au jugement. L'image qui prévaut pour le jugement est celle de la balance. Donc une parcelle de bien ou une parcelle de mal feront la différence pour le jugement et la rétribution. On est donc dans une logique qui est strictement une logique de mérite. D'un point de vue chrétien, nous sommes dans une logique radicalement différente puisqu'on est dans une logique de grâce. Le plus grand saint ne mérite pas le salut. Il le recevra. Donc le salut dans une perspective chrétienne est toujours de l'ordre de la grâce, hein, tandis que dans la perspective musulmane, il s'agit d'une perspective strictement rétributive. Voilà un rapide parcours de ce premier grand ensemble que la tradition musulmane perçoit dans la révélation qu'elle a reçue, ce qu'elle appelle Akhida, les croyances de foi, hein, qui s'articulent autour de ces cinq articles fondamentaux. Vous rendez bien compte que chacun d'entre eux mériterait au moins une heure complète, et que j'ai fait les cinq ici en une demi-heure. Hein. Donc, premier grand bloc, donc les croyances de foi. Deuxième grand chapitre, extrait de la révélation donnée au prophète Mohammed, est ce qui concerne le culte prescrit. Comment le croyant doit-il se comporter pour rendre de façon adéquate un culte à Dieu ? Et nous touchons ici à un chapitre qui est sans doute le plus connu, un de ceux qui ne savent rien de l'islam, ils connaissent les cinq piliers. Il s'agit ici de bien percevoir que pour ces cinq piliers, il s'agit bien d'actes de culte. C'est le culte qui est en jeu à travers chacun d'eux. Le mot qui est utilisé en arabe est celui d'ibadat, c'est-à-dire les actes par lesquels je manifeste que je suis serviteur de Dieu. Voilà la nature du culte. Ce sont les actes par lesquels je manifeste que je suis serviteur de Dieu. Alors, quels sont ces cinq actes? Il y a tout d'abord la shahada, ou profession de foi. Elle consiste simplement dans la formule « J'atteste, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu, et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. » En prononçant cette phrase en arabe devant deux témoins musulmans, je deviens musulman. Je sais qu'il y a certains musulmans parmi vous, je ne le dis qu'en français, hein, pour ne pas me retrouver musulman à la fin de la soirée. Donc, la profession de foi, voyons bien les deux éléments de sa structure, elle commence par une négation. La illallah, il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu. Donc c'est ce sens fondamental de l'unicité de Dieu qui s'inscrit dans l'attitude croyante, fondamentalement d'abord, comme une négation, comme le refus de la prétention à tout ce qui n'est pas Dieu, de se prétendre Dieu. Il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu. Et le second terme de la profession de foi est que Mohammed est l'envoyé, le messager de Dieu, Rasoul, donc celui qui a reçu la Risala, qui a reçu le Coran. Cette formule intervient très régulièrement dans la prière rituelle quotidienne, et elle est donc l'acte par lequel quelqu'un entre en islam, devient musulman, s'il n'est pas né d'un père musulman. Premier acte de culte, donc la profession de foi. Le second, c'est la prière rituelle, salat, qui est un ensemble de cinq temps de prière sur la journée à des moments fixes, qui est une prière rituelle, donc qui est accompagnée d'un ensemble de gestes et de récitations. Il ne s'agit pas de méditation personnelle ou que sais-je, il s'agit bien d'une prière rituelle, à des moments fixes de la journée, cinq fois, qui doit être exécutée par tout musulman saint d'esprit et adulte, et qui repose aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Dans certains cas, certaines prières peuvent être regroupées, raisons de travail, de voyage, de santé, que sais-je. Il n'est pas toujours possible de s'arrêter 5 fois sur la journée. Pour être valable, valide, la prière doit être exécutée, et là c'est, je trouve, un élément spirituel très fin, en ayant exprimé l'intention de prier, la niya, qui est peut-être un petit truc, même pour les chrétiens, de se donner, avant de commencer à prier, de se rappeler qu'on a l'intention de prier. Donc, c'est une condition de validité de la prière, hein, se rappeler, hein, exprimer son intention de prier avant de commencer. Puis alors, il y a des conditions de pureté rituelle. La purification ordinaire consiste en un lavement successif de la figure, des mains et des avant-bras jusqu'au coude. On doit ensuite se frictionner la tête avec la main humide et se laver les pieds. La prière peut être effectuée individuellement et en tout lieu. Il n'y a pas de lieu prescrit pour la prière. Elle doit juste être effectuée sur un sol pur, d'où l'utilisation des tapis de prière, hein, qui permettent de s'assurer, si on est amené à prier un peu n'importe où, hein, au cours de la journée, d'avoir un espace pur pour la prière en déroulant son tapis. Elle doit être faite en direction de la Mecque. Nous avons vu que cette direction s'est imposée à Médine au moment de la rupture avec le judaïsme, et qu'auparavant, hein, c'était la direction de Jérusalem, et qu'un hadith dit que la direction définitive de la prière à la fin des temps sera pour tous celle de Jérusalem. Actuellement, donc, elle doit être faite en direction de la Mecque. Je vous disais que c'est un devoir qui repose sur les personnes, donc on peut prier seul là où on se trouve, mais il y a toutefois un devoir collectif qui repose sur l'ensemble de la communauté musulmane. C'est celui que dans chaque localité, la prière soit exécutée en commun par quelques hommes. Donc, la prière commune est une obligation communautaire, pas individuelle. Du moment qu'elle est organisée et que quelques-uns y participent, l'obligation est remplie, les autres prient individuellement là où ils se trouvent. Par contre, l'assistance à la prière du vendredi midi à la mosquée est une obligation qui repose sur chaque musulman qui peut faire la prière pour autant qu'il ne voyage pas loin de son domicile. Et cette prière, c'est quelque peu plus développée par un prêche en général de l'imam qui dessert la mosquée. La profession de foi, la prière rituelle, et puis troisième acte de culte également, c'est l'aumône légale, la zakat. Et je trouve intéressant de bien percevoir que l'aumône est un acte de culte. En donnant aux pauvres, c'est un culte que je rends à Dieu. Cela nous fait percevoir que la question du partage et de la justice envers les pauvres est profondément inscrite au cœur de l'islam, non pas simplement comme un mode de vie, mais réellement comme une dimension religieuse. Cela fait partie des ibadat. Au départ, c'était une action de bienfaisance dont la nature et le montant étaient laissés à la prédication du bienfaiteur. Et puis, petit à petit, cependant, au fur et à mesure que la communauté musulmane s'étendait, la zakat, cette aumône légale, devint une sorte d'impôt qui sera soumis alors par les écoles juridiques à une réglementation précise et assez compliquée, hein, suivant ce que l'on possède, les quantités, de savoir si ça a servi pendant l'année, etc. Le produit de la zakat devait bénéficier aux pauvres, au percepteur lui-même, lorsqu'il a fallu l'organiser, aux nouveaux convertis, aux esclaves, aux débiteurs malheureux, aux combattants de l'islam, et aux voyageurs qui n'ont pu atteindre le but de leur voyage à la suite de quelques catastrophes. Aujourd'hui, le seul vestige réel de l'ancienne zakat qui subsiste est la zakat al-fitr, l'aumône obligatoire à la fin du jeûne de Ramadan. Pour le reste, chaque musulman pratique cette aumône suivant sa sensibilité propre. Mais la zakat al-fitr est restée tout à fait établie. Quatrième axe du culte prescrit, c'est le jeûne. Il y a plusieurs périodes de jeûne qui sont recommandées aux musulmans, mais le plus connu et le seul obligatoire est le jeûne du mois de Ramadan, mois durant lequel, d'après le Coran, la révélation est descendue du ciel au cours d'une nuit sur le prophète comme un rappel de l'ensemble de la révélation. Donc Ramadan est le nom d'un mois, d'un mois de l'année lunaire, et ce qui explique aussi que le Ramadan, par rapport à notre calendrier solaire, recule chaque année de 11 jours environ, et donc parcourt l'entièreté du calendrier solaire et peut donc tomber aussi bien en hiver qu'en été par rapport au calendrier solaire. Le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne absolu, en ce sens qu'il faut s'abstenir de nourriture, de boisson, de tabac, de relations sexuelles, entre le lever et le coucher du soleil. Donc vous voyez bien évidemment que sous nos latitudes, l'effort de Ramadan sera très différent suivant qu'il tombe en été ou en hiver. En hiver, la journée de jeûne est relativement brève, tandis qu'elle est excessivement longue et marquée par la chaleur en été. Ce jeûne doit être observé par tout musulman sain d'esprit et adulte. Certaines exceptions sont néanmoins prévues, comme le voyage, la maladie, les femmes enceintes nourrissant leur enfant ou ayant leurs règles, les ouvriers à travail lourd. Mais toutefois, les jours qui sont omis doivent être récupérés plus tard, sauf si évidemment ce n'est pas possible, si un grand malade sans espoir de rémission, il peut alors racheter les jours de jeûne manqués par la distribution d'une aumône équivalente à 200 grammes de grains ordinaires par jour de jeûne omis. Alors, le temps de Ramadan est un temps fort pour toute la communauté musulmane, tant au niveau spirituel, c'est un temps de prière avec une place très importante à la récitation du Coran, en particulier pendant Laylat al-Qadr, la nuit du destin, à la nuit pendant laquelle le Coran est descendu sur le prophète Mohammed, et c'est suivant certaines traditions, au cours d'une nuit du destin, que la fin du monde adviendra. Donc les croyants réunis à la mosquée pendant la nuit du destin, en récitant le Coran dans son entier, sont en même temps des veilleurs dans l'attente de la fin du monde. Donc une dimension de prière importante, de démarche spirituelle. Beaucoup de musulmans qui ont vécu un peu librement leurs obligations religieuses pendant l'année, le vivent comme un temps de retour, souvent, à une pratique plus stricte et à un effort pour vivre en vrai musulman. Mais c'est aussi un temps très fort pour, du point de vue social. D'une part, parce que le temps du Ramadan est le temps privilégié de la réconciliation entre les personnes, s'il y a eu des différends dans les mois qui ont précédé, mais aussi par la pratique de la rupture du jeûne. La rupture du jeûne chaque soir est un temps assez festif. Donc, faire la fête tous les soirs pendant un mois, cela renforce la cohésion sociale, cela renforce les liens de façon très nette. On ne mange pas sur le pouce, en vitesse, chez soi. Non, on prend le temps de manger, de se rencontrer, de manger de façon festive. Et en prenant le temps, simplement aussi parce que après avoir jeûné toute une journée, on ne sait pas prendre un repas complet le soir, il faut y aller progressivement. Et donc le temps de Ramadan marque un temps fort au niveau social également. Le cinquième acte de culte est le pèlerinage à la Mecque. Donc ce sanctuaire fondé par Abraham, un sanctuaire au Dieu unique, qui avait été détourné par les païens comme sanctuaire pour les idoles, et que Mohammed a restitué au culte du Dieu unique. Et donc c'est ce pèlerinage-là. Tout musulman qui en a les moyens doit effectuer une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque au cours du mois du pèlerinage, qui est le 12e mois de l'année. Donc c'est à un moment fixe que l'on fait le pèlerinage, on ne le fait pas quand on veut, hein, et donc ça veut dire aussi qu'on le fait tous ensemble, et ce qui fait aussi que ça limite fortement le nombre de personnes hein, qui peuvent y participer. Je pense que maintenant l'Arabie Saoudite autorise 2 millions, je crois, de pèlerins, mais si l'on compte qu'il y a 1,2 milliard, 1,3 milliard de musulmans à travers le monde, ben, il est évident qu'il est devenu statistiquement impossible que tout le monde fasse le pèlerinage, même si tout le monde était très riche et avait les moyens. S'il n'y a que 2 millions de personnes par an qui peuvent y aller, ça obligerait les musulmans à vivre vraiment très longtemps pour que tous puissent y aller. Les cérémonies actuelles du Hajj, le pèlerinage, sont composées de deux parties principales. La Umra, la visite à la Kaaba, donc ce monument central de la Mecque de forme cubique, dans lequel est enchâssée une pierre noire qui était déjà vénérée avant l'islam. C'était donc, comme je le disais, un sanctuaire païen et que le prophète a rendu à sa destination monothéiste primitive, puisque l'islam le rattache à Abraham et son fils Ismaël. Il faut également tourner cette fois autour du monument et accomplir un petit pèlerinage à Safa et Marwa, quelques kilomètres de la Mecque. Et la seconde partie est le Hajj proprement dit, qui comprend des déplacements entre plusieurs sites des environs de la Mecque. Le Hajj se termine par le sacrifice et est souvent complété par une visite au tombeau du prophète à Médine. Donc, chaque année, à la fin du Hajj, les pèlerins font le sacrifice en commémoration de ce sacrifice qu'Abraham a fait en lieu et place de son fils Ismaël. Et donc, la fête du sacrifice que l'ensemble des musulmans à travers le monde célèbrent, mais ils la célèbrent en communion avec les pèlerins hein, qui le font sur place. Hein, donc, c'est la fête du sacrifice qui clôture le pèlerinage. Ces deux parties du pèlerinage, la Umra et le Hajj, peuvent théoriquement être séparées. La Umra, on la fait quand on veut dans l'année, tandis que le Hajj, il faut le faire à un moment fixe, juste avant la fête du sacrifice. Donc ce qui veut dire que tous les musulmans qui viennent de loin essaient de joindre les deux, évidemment, pour avoir rempli l'obligation. Le pèlerinage, comme la prière d'ailleurs, exige des conditions de pureté rituelle et le port d'un vêtement particulier, identique pour tous les participants. Et cela donne au pèlerinage une portée très grande dans le sentiment d'appartenance musulmane. Vous imaginez que ce sont des conditions de vie relativement précaires, où tous se trouvent vêtus de la même façon, où il n'y a plus de différence de vêtements qui passe de différence entre les riches et les pauvres, où on se retrouve entre musulmans de races et de cultures très différentes. Donc cela donne un fort sentiment, c'est une expérience très forte pour ceux et celles qui y participent. Voilà donc les cinq actes de culte qui sont portrait de la révélation par la tradition musulmane. Comment rend-on un culte à Dieu quand on a reçu la révélation musulmane? En faisant profession de foi, en priant, en partageant avec les pauvres, en faisant le jeûne et en faisant le pèlerinage. Certains rattachent à ces cinq piliers de la foi une prescription de type communautaire, c'est-à-dire une prescription qui ne repose pas sur les personnes individuellement, mais sur l'ensemble de la communauté, c'est la prescription du djihad, qui est parfois erronément traduit en français par « guerre sainte ». Le mot « djihad » en arabe n'évoque ni la guerre, ni la sainteté, mais simplement l'effort. Et l'expression complète, c'est « djihad fi sabilillah », l'effort sur le chemin de Dieu. Donc il y a une obligation qui repose sur la communauté dans son ensemble, de faire effort sur le chemin de Dieu, de faire djihad, c'est-à-dire de veiller à d'abord être un bon musulman soi-même, à ce que sa famille soit de bons musulmans, à ce que la société dans laquelle on vit vive selon les principes de l'islam, et aussi à défendre militairement la communauté ou le pays lorsqu'il est attaqué. Mais donc la dimension militaire du djihad n'est qu'un élément prescription, et un élément qui est d'ailleurs très fort codifié par le droit. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être que, ça fait déjà maintenant quelques années, quand le président Saddam Hussein s'en était pris au Koweït, en essayant de galvaniser ses troupes en les appelant djihad, il s'est fait rétorquer simplement par l'université Al-Azhar au Caire, par l'ensemble des savants: Monsieur Saddam Hussein, vous vous trompez. Les conditions juridiques ne sont pas réunies, il n'y a pas de djihad. Donc, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire quand le djihad prend une forme militaire. Alors, j'ai joint dans les notes, parce que je ne voyais pas très bien où le mettre ailleurs dans le cours, et que c'est sans doute quelque chose qui est intéressant de savoir dans un cours d'introduction, une petite notice sur les fêtes religieuses dans l'islam. C'est lorsqu'on se rencontre, il est important quand même de savoir ce que fête, ce que l'on rencontre. Selon le prophète, les fêtes religieuses doivent être pour les fidèles l'occasion d'extérioriser dignement leur joie, mais également et surtout de consolider les liens de solidarité et de fraternité qui les unissent. Et dans le contexte migratoire, les fêtes sont aussi l'occasion privilégiée, évidemment, de retrouvailles pour des familles qui se trouvent parfois plus dispersées que dans le pays d'origine. Alors, il y a deux fêtes principales dans que fête l'ensemble des musulmans. La petite fête et la grande fête. La petite fête, Eid es-Sahir, que l'on appelle aussi Eid el-Fitr, la fête de la rupture, est celle qui clôture la fin du jeûne de Ramadan. Elle est marquée par une prière et marquée aussi par la zakat al-fitr, donc cette aumône de la rupture du jeûne. Elle est l'occasion de réjouissance dans les familles, avec en général de délicieux gâteaux en particulier qui viennent agrémenter la fête. La petite fête, donc, qui clôture le jeûne de Ramadan. Puis, il y a la grande fête, appelée aussi Eid el-Adha, la fête du sacrifice, que l'on traduit parfois, malheureusement je trouve en français, par fête du mouton, parce que c'est tout sauf sa fête au mouton. Hein, donc c'est la fête du sacrifice ou la grande fête qui a lieu donc le 10e jour du 12e mois de l'année, hein, qui est le mois du pèlerinage, et qui commémore donc le sacrifice que le prophète Ibrahim a fait en remplacement de son fils Ismaïl. Donc chaque famille est amenée à sacrifier, hein, en mémoire de ce sacrifice et pour manifester cette volonté d'avoir la même foi, la même soumission que le prophète Abraham envers Dieu. Le sacrifice peut être fait pour plusieurs familles lorsqu'on n'est pas assez nombreux pour consommer toute la bête sacrifiée. Et le sacrifice peut aussi, dans certaines circonstances, être compensé. Donc, c'est le roi du Maroc précédent, Hassan II, qui, une année, avait appelé les Marocains à ne pas sacrifier parce qu'il y avait eu une période de sécheresse et qu'il voyait bien les conséquences désastreuses, hein, qu'aurait eu le fait d'un abattage massif dans le pays, et donc a appelé à sacrifier autrement qu'en sacrifiant un animal. Donc cette notion, hein, de sacrifice peut, dans certaines circonstances particulières, être compensée par d'autres formes de sacrifice. Ce sont là les deux fêtes principales que fête l'ensemble des musulmans. Je mentionnerai encore la fête du Nouvel An musulman, plus modeste, hein, qui marque le début de la nouvelle année lunaire. 10 jours plus tard, la fête de Ashura, qui est la fête du 10e jour, et qui fait mémoire de la bataille de Karbala, au cours de laquelle Hussein, le fils de Ali, a été assassiné un 10 Muharram de l'année 60 de l'Égypte. C'est une fête qui prend évidemment dans le monde chiite une place importante, hein, on commémore vraiment le sacrifice de Hussein, mais aussi tous les sacrifices et les martyrs tout au long de l'histoire chiite. Et dans le monde sunnite, elle a pris une connotation plutôt de fête de l'abondance, de l'effet bénéfique et multiplicateur de la zakat, de l'aumône, donc où on accueille la prospérité divine, tous les dons de Dieu, et qui, alors, pourra prendre une tonalité presque de Saint-Nicolas pour les enfants, hein, donc de fête de cadeaux, d'abondance, de... donc la fête d'Ashura. Et puis alors une fête qui dans certaines régions est célébrée également, c'est la fête du Mouloud, c'est la fête de l'anniversaire de la naissance du prophète, mais qui est en général considérée comme une innovation blâmable, et donc qui n'est pas recommandée, parce que hein, le prophète n'est qu'un homme comme les autres, et il ne convient pas de développer une fête pour le prophète, mais la dévotion à l'égard de sa personne fait que dans certains milieux, certaines régions, la fête du Mouloud est développée. Alors à côté de ces fêtes qui marquent le calendrier annuel, il y a bien sûr aussi, hein, toutes les fêtes qui marquent les âges de la vie, hein, les rites qui tournent autour de la naissance, du mariage ou du décès. Voilà un petit parcours où les deux grands axes, hein, c'était d'essayer de faire percevoir, à partir de la révélation coranique, quelles sont les croyances de foi fondamentales, quels sont les actes par lesquels on manifeste que l'on est des croyants, les actes de culte, Et puis la semaine prochaine, nous entrerons dans les deux chapitres suivants, hein, qui sont celui de la vie morale, quel est le contenu de la révélation par rapport à, comme repère moral, et celui de la vie en société, la vie ensemble. Voilà, bonne soirée.